dans la perception du changement de contexte politique et social. Je pense que c'est des éléments de discussion importants pour saisir la politisation d'acteurs religieux. Donc nous allons maintenant écouter Bayram Balchi, chercheur au CERI, qui est spécialiste des relations entre islam et politique dans l'espace post-soviétique et dans la Turquie, et en Turquie contemporaine, et qui va nous présenter une communication intitulée « Entre mysticisme et politique, transformation du mouvement de Fethullah Gülen en Turquie ».
Bien. Je tiens avant tout à remercier les organisateurs pour cette conférence, pour ce colloque. Pour ce qui est du thème de la conférence d'aujourd'hui, donc j'ai décidé de parler de ce mouvement de Fethullah Gülen, un mouvement sur lequel je travaille depuis à peu près 20 ans, que j'ai commencé à étudier en Asie centrale, sur lequel je suis tombé un peu par hasard, parce qu'en fait, au début, j'avais commencé mes études à Grenoble avec un autre professeur que j'ai essayé de 25 ans après, je crois, Pierre Bréchon. Et ensuite, des études entre Grenoble et Aix-en-Provence, et je me suis retrouvé en Asie centrale, où j'ai croisé un autre collègue qui vient d'arriver, Thierry Zarkon. On avait travaillé ensemble en Asie centrale sur l'islam. Et j'étais tombé par hasard, parce qu'au début, j'avais commencé à travailler sur la Turquie en Asie centrale en 1995. C'était un sujet très nouveau, très novateur, très intéressant pour l'époque. Et je suis tombé par hasard sur des écoles que j'ignorais, dont j'ignorais le sens. Et du coup, j'en ai fait un sujet de thèse, enfin, que j'ai fini il y a plusieurs années. Et depuis, j'essaie de passer à autre chose, de travailler sur autre chose. Mais le sujet me poursuit. À chaque fois, il y a quelque chose qui émerge. Et du coup, je continue un peu à travailler là-dessus. Donc, je vais faire une présentation un peu simple et basique de ce mouvement d'abord, pour commencer. D'abord, sur le mouvement du Gülen lui-même. Quand on dit Fethullah Gülen, c'est d'abord un homme qui est toujours en vie, qui est aux États-Unis, qui a décidé d'une manière volontaire de s'exiler à Pennsylvanie. Il est installé là-bas depuis 1999. Il est né à l'est de la Turquie, dans une ville assez conservatrice, Erzurum, tout près de la frontière d'Union soviétique à l'époque. Donc c'est une ville qui est conservatrice, un peu nationaliste, un peu aussi anti-russe, anti-soviétique et anti-communiste. Et d'ailleurs, on a vu Fethullah Gülen dans sa jeunesse militer dans des organisations anti-communistes, etc. Les idées religieuses qu'il a, c'est un mélange. Il a été influencé par différents courants islamiques. D'abord, un religieux kurde qui a été très actif, qui a beaucoup marqué l'islam turc, qu'on appelle Said Nursi. Ça, c'est la première. Ensuite, il a été influencé aussi par des courants néo-confrériques, Naqshbandiya, et entre autres, il a aussi été marqué par ça. Et c'est un mouvement aussi, Fethullah Gülen lui-même, étant donné qu'il a été fonctionnaire de la Diyanet. Donc la Diyanet, c'est l'organisme, une espèce de ministère des affaires religieuses en Turquie, organisme d'État. Donc il a été fonctionnaire au service de l'État turc comme prédicateur, comme fonctionnaire religieux. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'entre plusieurs années, sur la décennie 60 et 70, il a créé un mouvement d'une manière sur le long terme. Alors, la première particularité de ce mouvement, c'est qu'en fait, il y a une priorité qui, dès le départ, qui est donnée à l'éducation. L'éducation, l'école, a une position centrale depuis le début dans la stratégie, dans la pensée de Fethullah Gülen. Et c'est un mouvement, j'en parlerai tout à l'heure dedans, plus en détail, c'est qu'en fait, il a une certaine singularité dans le monde musulman, et même globalement, dans le sens où on peut le comparer, j'ai essayé de le, ne serait-ce que par la notion de transnationalisme, la présence dans plusieurs pays du monde, j'essaie de le comparer à d'autres mouvements islamistes. Il ressemble un peu à ce qu'on appelle les tablieries, mais c'est encore autre chose. J'ai jamais vu un mouvement aussi transnational, aussi présent, dans des pays très différents, mais arriver à être quand même assez présent et implanté dans la structure éducative, l'entreprise, le commerce et le business. Alors, les différentes périodes, d'abord les années 70, le mouvement se forme dans la région de Izmir, parce qu'il était fonctionnaire à l'époque à l'ouest de la Turquie. Donc, il va créer des associations pour améliorer la vie scolaire, pour la performance des élèves. Donc, du coup, des fondations privées, des cours de rattrapage, etc., pour aider les gens à réussir un peu le niveau scolaire. Donc, les parents sont très contents. Les années 80, en Turquie, les années 80, c'est une période charnière parce que, en janvier 1980, à l'époque, le premier ministre Turgut Özal, on passe d'une économie presque soviétique dirigiste à une économie libérale. Et ça, c'est un point de rupture fondamental parce que les mouvances religieuses vont investir considérablement dans la réussite, dans le commerce, dans l'entreprise. Fethullah Gülen, il va réussir à donner une espèce de... Il va essayer d'aider les siens à se décomplexer, à ne pas avoir de complexe avec l'argent, l'enrichissement. Il va leur dire être un bon musulman et pieux, c'est pas un problème, au contraire, c'est une espèce de récompense qui vient de Dieu. Et si vous êtes un bon musulman, quelque part, c'est aussi un moyen de gagner de l'argent et de gagner votre argent, votre place aussi dans le au-delà. Donc, il y a une certaine toute proportion gardée. On trouve une certaine éthique protestante et esprit de l'islam, en fait, du capitalisme, mais version islamique. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les disciples de Fethullah Gulen. Les années 90, donc là, c'est une autre rupture dans l'histoire du mouvement, parce que 1990-91, c'est la fin du bloc de l'Est. Donc, pour la Turquie, la fin du bloc de l'Est, c'est plusieurs choses. C'est un, l'ouverture des Balkans, l'ouverture du Caucase et l'ouverture de l'Asie centrale. Ces trois régions sont importantes pour la Turquie, parce que la Turquie est historiquement donc l'héritage balkanique dans les Balkans, l'héritage ottoman dans les Balkans est très important, l'héritage turcique dans les pays du Caucase, en Azerbaïdjan et en Asie centrale est aussi très important. Ce qui a fait 1990, le mouvement en Turquie qui est déjà assez puissant, ils ont des écoles, des fondations, des journaux qui ont été créés et qui s'inspirent un peu des idées de Fethullah Gulen. Donc il est dans une phase d'explosion et quelque part l'ouverture de ces nouveaux espaces, pour la Turquie, Balkans, Caucase, Asie centrale, va y naître une espèce de nouvelle opportunité, de nouvelle terre de prédilection. Et le mouvement va partir dans ces pays-là sous forme de éducation, c'est-à-dire qu'ils vont créer des écoles privées, des universités, des journaux turcs dont ces langues locales vont se développer. Et tout ça pour aussi dans un contexte où la Turquie, la diplomatie turque, dans un contexte par pragmatisme, même si à l'époque les gouvernements sont ultra séculiers, il y a quand même le calcul que dans l'intérêt de la Turquie, étant donné que ces écoles, ce mouvement véhicule un certain discours, diffuse la langue turque, donc dans ces conditions-là, par pragmatisme, on va les soutenir. Alors, pour le rapport aux politiques. J'ai dit tout à l'heure, l'éducation est au centre du mouvement. Ça, c'est vraiment la priorité. C'est-à-dire qu'il part du principe, il a toujours dit à ses disciples que pour nous, avant de construire une mosquée, il faut des écoles. Parce que, de toute façon, la prière, on peut la faire partout, alors que l'école, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est une stratégie, mais c'est aussi une conviction sincère, dans le sens où il dit, il y a un problème de retard chez nous dans l'éducation, donc il faut qu'on arrive à le rattraper. Le business aussi est très important, j'ai dit tout à l'heure, parce que il part du principe que un musulman, il peut être riche, c'est pas un problème du tout, au contraire, parce que si on veut diffuser, être influent, aider les musulmans à être des vrais musulmans, il faut aussi qu'il y ait un certain niveau économique dans ces pays-là. Et pour ce qui est du rapport aux politiques, dès le départ, il y a une certaine ambiguïté. Et je dirais que l'ambiguïté même fait partie de la stratégie de pouvoir et de puissance du mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, sur plein de choses, plein de notions, le mouvement est volontairement ambigu, ambivalent. Pour ce qui est du politique, donc à l'origine, pour le comparer, son comportement vis-à-vis de l'islam politique, donc de Erbakan, l'ancêtre, le prédécesseur de Erdogan, si vous voulez, en fait, les relations étaient très mauvaises. C'est-à-dire que pour lui, il disait en fait que nous, notre rapport à l'islam, c'est pas de faire du show, du business avec l'islam. On veut pas un islam politique. On ne veut pas parce que c'est, on est là pour la paix, pour la prédication, etc. Et de ce fait, il est en mauvais terme avec l'islam politique. Et son comportement vis-à-vis des partis politiques est le suivant. C'est qu'en fait, il ne va pas adhérer et soutenir ouvertement un parti politique au détriment d'un autre. Au contraire, il essaie d'avoir cultiver des relations cordiales avec à peu près tous les partis politiques. Mais au fur et à mesure, et je trouve qu'on peut dire ça, je pense qu'on peut dire ça pour beaucoup de mouvements islamiques, c'est qu'en fait, au bout d'un certain temps, même si on est politique, le politique, il vous rattrape. Et on le voit aussi, par exemple, pour ce qui est le tablieri en Inde, pour ceux qui ont travaillé sur l'Inde et le Pakistan, c'est qu'en fait, on a beau être apolitique, mais à un moment, si vous avez créé une structure qui devient tellement puissante, vous ne pouvez pas rester indifférent en politique, parce que sinon, il en va de l'avenir de votre mouvance. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec le mouvement de Fethullah Gulen. Donc en 2002, le AKP actuel arrive au pouvoir. AKP, c'est l'islam politique qui a mis un peu de vin dans son nom, si vous voulez dire, qui a essayé de moderniser un peu son discours. Et vis-à-vis de l'AKP, au départ, le mouvement de Gulen, quand il le voit arriver, il est un peu hésitant. Il est un peu hésitant, mais finalement, il s'aperçoit en fait que l'AKP a un discours, a une stratégie qui peut aussi aller dans le sens des intérêts du mouvement. Ce qui fait que Gulen va apporter une nouveauté, il va changer son attitude habituelle et il va passer à un pacte non écrit, non dit, mais de fait, il y a une espèce de pacte avec le AKP. Et le pacte est le suivant, c'est qu'en fait, la mouvance de Gulen, qui est très forte en soft power, donc en Turquie et à l'étranger, et qui a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de penseurs, va mettre tous ces gens-là, tous ces atouts-là, au service de l'AKP. Et l'AKP qui arrive au pouvoir, qui est une machine électorale puissante, considérable, mais qui manque en quelque sorte d'intellectuels, de penseurs et de gens un peu de soft power, va aussi l'utiliser. Et en fait, cette alliance, elle est bénéfique pour les deux, parce que l'AKP qui arrive au pouvoir, il est encore fragile, il a encore peur de l'establishment kémaliste, ultra-séculier, ultra-du, enfin l'armée notamment. Et de ce fait, c'est une alliance qui est bénéfique pour les deux. Bénéfique pour les deux, donc du coup, avec ça, ils vont pouvoir, en quelque sorte, affaiblir, annihiler le pouvoir du kémalisme et de l'armée. Et c'est une puissance, c'est une alliance qui va renforcer et l'un et l'autre camp. Alors j'aimerais dire ce que gagne le AKP. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il gagne en soft power, il gagne aussi en intellectuel, il gagne en penseurs qui vont être au service de son gouvernement. Vous avez les journaux, les médias qui sont puissants de Gulen, qui vont même se mettre à faire l'apologie du mouvement, du parti AKP, faire travailler pour lui à l'étranger, écrire des articles, des éditoriaux, ce qu'on appelle les columnistes, qui sont vraiment très, très importants en Turquie. Donc ça profite beaucoup à l'AKP. Et en échange, et c'est là que ça devient intéressant, le mouvement de Gulen, qui a toujours été, moi j'ai toujours comparé ce mouvement un peu à ce qu'on appelle un peu à l'Opus Dei ou à G8 en fait, ou G8, c'est-à-dire qu'un culte pour l'éducation, mais l'éducation globale, globalisante, un côté un peu aussi mystérieux, élitiste, perfectionniste, mais aussi un goût un peu pour l'infiltration. L'infiltration dans le sens où, même s'ils font confiance à l'État, ils ont quand même une certaine méfiance, et donc du coup le pacte qu'ils ont avec la KP, ils vont en profiter pour permettre à leurs disciples de s'embrigader en quelque sorte, d'être puissant dans les structures de la police, de la procurature, voire de l'armée, c'est possible, mais l'armée est très difficile à pénétrer en Turquie, même s'ils ont réussi plus ou moins. Et de ce fait, il y aura, si vous voulez, une espèce de puissance presque parallèle au profit de l'AKP qui va se développer dans les structures de l'État en Turquie. Et c'est quelque chose qui va lui servir plus tard, au moment de la rupture de l'alliance avec l'AKP, c'est quelque chose qui va leur permettre de passer à l'offensive d'une manière assez considérable. Alors, la rupture. D'abord, la rupture, elle intervient, si vous voulez, l'alliance entre les deux, entre cette mouvance au départ plus ou moins mystique et le parti politique de l'AKP. Donc l'alliance, elle a lieu en 2002, mais à partir de 2012, elle commence déjà à faire preuve de faiblesse, il y a des fissures. Et en fait, les fissures, la rupture, il y a plusieurs raisons pour la rupture. D'abord, au niveau politique intérieur. Ensuite, au niveau politique extérieur. Et d'une manière un peu schématique, c'est qu'au niveau politique intérieur, après avoir travaillé ensemble pendant 10 ans, petit à petit, après avoir éliminé leurs adversaires, affaibli le kémalisme, l'armée, l'establishment kémaliste, ils commencent à devenir un peu, quelque part, concurrents, rivaux entre eux. Ça, c'est la première. Ensuite, au niveau politique intérieur, la question kurde, qui a toujours été très importante en Turquie, elle va être un peu divisive entre les deux, en fait. Elle va les diviser. Parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une des différences entre le mouvement du Gulen et le AKP, c'est qu'en fait, la mouvance du Gulen est plus nationaliste et plus turquiste, alors que l'AKP, à l'heure actuelle, c'est un peu différent, mais à l'époque, en tout cas, il était beaucoup plus dans une logique de umma, de islam global, etc. Il n'est pas nationaliste, même si à l'heure actuelle, l'AKP est devenu ultranationaliste, mais à l'origine, il ne l'est pas. Et en fait, quand l'AKP et Erdogan, il essaie de faire une ouverture sur la question kurde pour la régler. Eux, leur côté nationaliste, fait qu'en fait, ils ne sont pas d'accord. Et pour pouvoir mettre fin à cette ouverture à laquelle ils n'ont pas été associés, c'est surtout ça qu'ils les a mis en colère, c'est qu'en fait, ils vont essayer de casser le processus de rapprochement, de règlement de la question kurde lancé par Erdogan. Ils vont le faire comment? À cette époque-là, en fait, Erdogan avait chargé le responsable des renseignements turcs, donc le service... ce qu'on appelle le mythe, pour essayer de rencontrer d'une manière secrète avec les responsables du PKK, pour essayer d'apporter une solution à la question kurde. Or, pour eux, pour les gens de Gulen, comme ils sont nationalistes et que ce genre de concession sur la question kurde est inadmissible, donc dans ces conditions-là, étant donné qu'ils étaient déjà suffisamment infiltrés dans la police et la procurature, ils vont lancer un mandat d'arrêt contre le chef des renseignements turcs pour lui dire, ils voulaient l'inculper pour... pour collaboration avec une force terroriste. En fait, cela revenait dire à se mettre en opposition à la politique d'Erdogan. Et à partir de ce moment-là, en fait, Erdogan, il a compris, en fait, qu'ils étaient devenus un danger pour sa politique. Et de ce fait, en fait, à partir de 2012, il y a déjà un début de rupture entre les deux. En politique extérieure, il y a aussi un autre point qui va les diviser, c'est la politique de la Turquie vis-à-vis d'Israël. C'est une question fondamentale, on l'oublie, c'est qu'en fait, à la belle époque où la diplomatie turque est puissante, influente, il y a un soft power de la Turquie au Moyen-Orient, donc Erdogan, pour des raisons politiques, stratégiques, idéologiques, il essaye de faire de la question palestinienne une espèce d'outil, d'instrument pour donner à la Turquie une espèce de prééminence au Moyen-Orient. Et du coup, il va adopter une posture très anti-israélienne, et notamment avec, vous vous souvenez probablement, en 2010, de la flottille de Gaza. Et en fait, quand il y a eu cet incident, quand la marine israélienne a raisonné et a tué une dizaine de militants de cette flottille qui avait été mandatée, en fait, par une ONG islamiste, mais très proche du gouvernement AKP, très proche de Erdogan. Et en fait, dans cette attitude-là, dans cette crise-là, en fait, on avait vu à quel point Gulen, il avait été obligé de se distancer, de se désolidariser par rapport à cette initiative de Erdogan. Et la question, c'est pourquoi, c'est que, et je pense que, étant donné que la mouvance de Gulen, pour elle, et que Gulen vit aux États-Unis, une bonne partie de ses soutiens, c'était beaucoup les gens, les amis d'Israël, ils ne pouvaient pas ne pas se désolidariser de cette initiative. Et en faisant cela, je pense qu'il a fait ça pour préserver son mouvement, mais en faisant ça, quelque part, il a pris un acte politique où il a défié Erdogan, et c'était un deuxième point de rupture qui était considérable et qui a fait comprendre à Erdogan, déjà en 2010, qu'il fallait quand même se méfier de ce mouvement, et donc c'était une raison supplémentaire d'entrer en conflit avec lui. Alors, la troisième phase de cette guerre entre les deux est arrivée en 2013. En 2013, donc déjà les crises s'étaient accumulées entre les deux. Ils avaient tous les deux le sentiment d'avoir fait des enfants dans le dos l'un à l'autre. Et de ce fait, en 2013, la mouvance de Gulen, qui avait compris que Erdogan était décidé à les éradiquer, à déraciner en quelque sorte le mouvement, est passé à l'offensive. Il est passé à l'offensive de la manière suivante, c'est qu'en fait, étant donné qu'une fois de plus, ils avaient déjà pas mal de gens qui étaient impliqués, infiltrés dans la police, la procurature, et en fait, ce qu'ils ont lancé pour discréditer l'image de Erdogan, pour le discréditer, pour l'affaiblir, pour presque faire un coup contre lui, ils ont révélé des affaires de corruption authentiques, mais qui n'étaient pas du tout nouvelles en Turquie. Il y a toujours des affaires de corruption. Le politique en Turquie, je dirais pas seulement en Turquie, il a toujours été corrompu. Et en fait, ils ont révélé des affaires de corruption dans lesquelles étaient impliqués, y compris des gens proches de l'entourage, voire de la famille de Erdogan. Et c'était aussi une façon pour eux d'essayer de se débarrasser de lui. Son image était médiocre sur la scène internationale à cause de sa politique syrienne, à cause de sa politique autoritaire. Et or, leur coup n'a pas marché. Il n'a pas marché parce que la contre-attaque de Erdogan a été beaucoup plus féroce. Il a purgé, il a changé les fonctionnaires, il a viré beaucoup de procureurs, de policiers, etc. Il a repris les choses en main. Et de ce fait, en 2013, en fait, quelque part, ça l'a rendu encore beaucoup plus autoritaire. Et de 2013 à 2016, il a continué davantage à faire des purges dans la police, la procurature et partout, y compris dans le domaine universitaire, d'une manière aussi un peu extensive et disproportionnée. Parfois, il y a même des gens qui n'étaient pas forcément Gulen et qui ont été touchés par ces purges. Et on arrive en 2013. En 2013, s'il y a un moment où effectivement il y a une vraie implication, un vrai combat politique entre cette mouvance qui était au départ apolitique, mystique, néo-confrérique, etc., c'est le moment de 2016. Donc le coup d'État en 2013, vous vous souvenez au mois de juillet, c'est que... 2016. Oui, 15 juillet 2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, on a toujours quelques problèmes à expliquer concrètement ce qui s'est passé, parce qu'on manque d'éléments, c'est pas évident, et je pense que les putschistes eux-mêmes, il y avait un problème de coordination entre eux, je pense qu'eux-mêmes, ils ne savent pas tous les éléments, ils n'ont pas tous les éléments du coup d'État. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, les gens de Gulen étaient impliqués dans le coup d'État militaire? Si oui, de quel degré, quel niveau? La première hypothèse, c'est qu'on sait que, effectivement, l'armée turque a toujours été la plus réticente, la plus méfiante vis-à-vis du mouvement. S'il y a une institution qu'ils n'ont pas réussi à bien infiltrer, c'était l'armée. Et c'est toujours méfié. Mais en même temps, on sait en fait qu'entre 2013 et 2016, ils ont fait tellement de tentatives et que Erdogan est devenu tellement impopulaire, tellement autoritaire, tellement détesté par plein, il s'est créé tellement d'ennemis en Turquie que je pense qu'il a pu créer une certaine synergie, une certaine coopération entre des mécontents de l'armée et des gens proches de la mouvance de Gulen. Donc pour dire les choses autrement, il me semble qu'il y a une implication indéniable des gens de Gulen, donc au détail militaire, mais on ne peut pas dire qu'ils sont l'élément central, le locomotif de ce coup d'État. Et je pense que l'objectif, c'est qu'en fait, il y avait un tel niveau de répression, il y avait un tel niveau d'autoritarisme que, et on sait par ailleurs en fait qu'avant le putsch, il y avait déjà des décisions, parce que chaque année en Turquie, il y a ce qu'on appelle le grand conseil militaire qui se réunit pour savoir qui va être promu dans l'armée, etc. On savait qu'il y avait des purges, et probablement ce qui a dû se passer, c'est qu'en fait, il y a eu différentes factions qui ont participé à ce coup. D'un côté, les kémalistes ultra durs, purs et durs, de l'autre côté, les opportunistes, et enfin, les gens proches de Gulen, dont certains savaient qu'ils allaient être purgés de toute façon, et ça a été un préparatif un peu hasardeux et de ce putsch. Et c'est aussi pour ça qu'il a raté, parce qu'en Turquie, il y a déjà eu des putschs en 60, en 70, en 80, et là, ça a complètement raté, parce qu'il y avait un manque de préparation, de coordination, et c'est pour ça que ça a complètement raté. Alors, après ce putsch, donc encore beaucoup plus qu'en 2013, les purges sont allées à grande vitesse, donc et là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune rationalité, aucune logique, c'est-à-dire que des gens, pas forcément en lien avec le mouvement, ont été aussi arrêtés. Et en Turquie, l'avenir du mouvement, je pense qu'en Turquie, à l'heure actuelle, on peut dire que en Turquie, le mouvement n'a plus d'avenir, parce que les écoles ont été fermées, les centres de préparation aux examens ont été fermés, des entreprises, des banques, des médias proches du mouvement, appartenant au mouvement, ont été saisis. Or, en Turquie, on sait que ce qui faisait la force de ce mouvement, c'était d'avoir des écoles et des centres de préparation aux examens. Pour deux raisons. C'est qu'en fait, ces centres servaient au mouvement, aider le mouvement à se renchir, parce que c'était des écoles payantes, donc on gagnait de l'argent. Ça, c'est la première. Et ensuite, c'était aussi, pour eux, c'était un moyen aussi de former ça formait de lieu de pépinière pour la formation de nouveaux cadres pour le mouvement. Ce qui fait qu'en Turquie, à mon avis, le mouvement est, de fait, éradiqué. À l'étranger, Erdogan, vindicatif, rancunier, décidé à se venger jusqu'au bout, a mis la diplomatie turque en mission, la diplomatie turque à l'étranger, partout où elle est, c'est qu'en fait, elle essaie de tout faire pour capter l'attention de ces pays pour qu'il y ait fermeture des écoles. Dans beaucoup de pays, ça a marché. La dernière en date, c'était au Maroc. Au Maroc, donc la semaine dernière, toutes les écoles de Gulen ont fermé. En Afrique, une bonne partie des écoles ont fermé. En Asie centrale, ça marche plus ou moins bien. Et tout à l'heure, je pourrais vous dire pourquoi certains sont réticents à fermer ces écoles. Mais ce n'est pas pour autant que Erdogan va gagner toute la bataille à l'étranger, parce qu'ils ont des capacités de résistance sur lesquelles lui, il n'a pas beaucoup d'emprise, en fait. En conclusion, je dirais que c'est un triple échec. Un triple échec, c'est-à-dire que les relations entre l'AKP et la mouvance de Gulen depuis le début jusqu'à nos jours, c'est un triple échec. Un échec pour Erdogan, parce que pendant longtemps, il rêvait d'un islam politique, d'avoir une espèce de conciliation entre islam et démocratie. Or, à l'heure actuelle, il est parti dans une telle dérive que c'est un échec total. C'est un échec aussi pour Gulen, parce que pendant longtemps, il se considérait un peu comme l'espèce de Martin Luther, de réformateur de l'islam. Or, un mouvement réformateur qui a recours à l'infiltration, presque à l'espionnage en quelque sorte, pour arrêter et mettre en difficulté ses opposants, c'est pas non plus des façons acceptables. Et enfin, je dirais que c'est aussi toute la Turquie qui a perdu, parce que pendant longtemps, l'alliance entre les deux contribuait beaucoup à un soft power de la Turquie. Il y avait une véritable puissance turque qui se développait en Afrique, partout. Et là, le divorce, la rupture entre les deux, quelque part, était en train de participer à la faillite, à la ruine de ce soft power. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Zahir. Donc, et qui nous a présenté également une évolution historique, donc de l'apolitisme à une progressive politisation, et l'évolution historique, en fait, dans les trois communications, la présentation de transformations dans le temps nous permettra, j'imagine, de discuter des conditions de politisation d'acteurs religieux. Hier, on est parti des partis politiques. Ce matin, on parle des conditions d'entrée en politique d'acteurs religieux. Peut-être que Bayram, tu fais la la connexion entre la session d'hier après-midi et la session de ce matin, puisque tu parles également des relations entre un parti religieux et des acteurs religieux. On en discutera après la pause, après un café, et je vous donne rendez-vous dans 10 minutes, maximum.
Pas plus, 10
pas
minutes.
Plus. Pour avoir un long moment de discussion tout à l'heure. Je vous remercie. Oui, ils sont à l'entrée. Vous l'avez pas eu sur l'entrée, j'ai pu vous en donner un. Ouais.